Bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Et puis encore merci pour cette fête. C'est vrai que l'ordination, ça a été quelque chose d'extraordinaire et je ne m'attendais pas à être autant béni ce jour-là. Donc je sais que certains y étaient, d'autres n'ont pas pu venir. Mais en tout cas, sachez qu'on est dans une église vraiment incroyable, extraordinaire et qui fait des. Voilà, qui aime tellement. Et je voudrais remercier vraiment toute l'église. Et puis. Voilà, moi je suis né dans cette église, c'est ma première église, bon avant j'étais catholique, mais c'est ma première église où j'ai vraiment rencontré Dieu, même si je l'ai connu un petit peu avant, et c'est vrai que je remercie Dieu pour cette église. Alors j'espère que vous êtes toujours allumés, parce que c'est vrai que, en fait, Dieu nous utilise que quand on est allumé. Si on n'est pas allumé, dans la vie, c'est le dimanche matin, le samedi soir, c'est facile d'être allumé. Par contre, être allumé en semaine, être allumé dans notre travail, être allumé tous les jours, c'est pas facile. Et pourtant, il y a un secret dans le fait d'être allumé, le fait d'être toujours sentir la présence de Dieu avec nous, de toujours chercher à être dans des défis pour être dans la foi. On a beaucoup parlé de la foi ce soir et je crois que c'était guidé parce que Dieu veut nous faire encore grandir dans la foi. Alors, je vais commencer par une citation. Alors, je vous la lis, je vous dirai qui c'est après. « Aujourd'hui, des millions de personnes crient à l'aide nuit et jour, cherchant du secours. » Et c'est vous que Dieu va envoyer vers certaines d'entre elles. Il vous a façonné sur mesure avant votre naissance pour répondre à leurs besoins. Ce passage, il vient de pasteur Yvan Castanou, donc qui est pasteur à ICC à Paris. Et en fait, je crois qu'il résume bien la pensée, enfin, en tout cas l'introduction de ce que je voudrais partager ce soir avec vous. Et le titre de mon message, ça serait une question, ça serait te demander, est-ce que tu te démènes pour ramener les enfants dans la maison du Père? Est-ce que tu te démènes? Est-ce que ta vie, elle a une place pour amener les enfants qui ne sont pas encore dans la maison du Père et pour les ramener dans la maison du Père? Et en fait, cette question, c'est très sérieux parce que nos vies vont à 200 à l'heure et je crois que c'est bien qu'on puisse se poser ce soir dans ce temps, dans cette série où on parle de réconciliation, où on parle nous-mêmes d'être réconciliés avec Dieu. Alors je sais que peut-être la majeure partie des gens ici, on a été réconciliés avec Dieu et c'est la plus belle chose qu'on a vécue. Et Dieu nous appelle, nous qui avons fait cette démarche, cette expérience de savoir comment être réconcilié avec Dieu, de pouvoir aussi amener d'autres dans la maison du Père. Et pour illustrer ce passage, on va s'appuyer sur une histoire que vous connaissez pratiquement tous, je pense. Et cette histoire, c'est l'histoire de Jonas. Donc on va commencer par lire juste quelques passages de Jonas et après je vais rebondir sur certaines vérités de ce passage. Alors, je crois que ça va s'afficher. Super. Alors, l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittaï, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Bon, je ne lis pas la suite. Alors, dans ce passage, on voit d'abord qu'il est dit qu'aux oreilles de Dieu, Dieu a entendu l'écho de la méchanceté des habitants de Ninive. Donc je vais vous... on va pas tout lire. Je raconterai après un petit peu le résumé pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Mais d'abord, on voit que Dieu est choqué d'entendre ce qui se passe dans la ville de Ninive. Et Dieu est choqué parce que du coup, bon, il ne supporte pas la méchanceté, il ne supporte pas la colère, il ne supporte pas le péché. Et vous savez, dans son palais, à Dieu, tout s'écrit gloire. Et du coup, il ne peut pas s'attendre à ce qu'une ville ou à ce que des humains vivent dans le péché. Et du coup, ça touche son cœur. Et Dieu est touché par rapport à ça. Et la première chose que Dieu fait, c'est quoi? Bon, c'est pas dur, hein. Allez-y. Oui. Voilà. Il appelle Jonas. Alors, on pourrait se dire, Dieu, il est tout-puissant. Dieu, il est tout-puissant, il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu, moi j'imagine, Dieu dans sa toute-puissance, il aurait pu, vous savez, venir dans les nuages, mettre un genre de grosse vidéo, et puis en disant, repentez-vous, race de vipères, ou en disant, attention, dans 40 jours, je vais venir, je vais frapper cette ville, et tout va être détruit. Dieu aurait pu faire ça. Et ça aurait été spectaculaire, et les gens, là, ils auraient tremblé. Et pourtant, Dieu a choisi un homme. Et ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que Dieu, pour réconcilier les hommes avec lui, choisit toujours des hommes. Il choisit des hommes, il choisit des groupes d'hommes, il choisit des églises, il choisit des gens rachetés. Et la question ce matin, pour nous, c'est de se dire, est-ce que Dieu peut m'utiliser? Est-ce que je suis quelqu'un qui est utile? Est-ce que Dieu, s'il m'appelle aujourd'hui, est-ce que je suis réceptif à cette parole? Alors d'abord, Dieu choisit un homme. Vous savez pourquoi Dieu choisit un homme? Dieu choisit un homme parce que c'est comme ça qu'il a décidé que les choses seraient. C'est-à-dire qu'au début, quand il y avait Adam et Ève, quand ils habitaient dans le jardin d'Éden, Dieu a confié toute la terre aux hommes. Après, on sait qu'il y a le péché qui est venu, je ne vais pas reparler de ça. Et l'homme a perdu son autorité. Et quand Jésus est venu et qu'il a, voilà, le fils d'Adam qui est venu et qui a redonné la condition à l'homme, il est venu, il a repris le pouvoir aux mains de Satan et il a redonné l'autorité à l'homme. Et en fait, Dieu, dans son projet aujourd'hui, son désir, c'est d'utiliser les hommes. Il pourrait aller beaucoup plus vite, il pourrait accélérer et faire que le monde soit réveillé, et faire que les choses aillent beaucoup plus vite, mais Dieu ne revient pas sur sa parole. Il a décidé de confier la terre aux hommes et il ne va pas revenir sur cette parole. Et en fait, c'est important de saisir ça, parce que des fois, on se dit, mais Dieu est tout puissant, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et du coup, on attend des fois le réveil, on attend que des choses se passent, mais on ne réalise pas qu'en fait, Dieu ne va pas revenir sur son principe. Dieu ne va pouvoir agir sur cette terre qu'à travers nous, qu'à travers toi. Tu es la seule personne, on est les seules personnes sur cette terre, ceux qui sont réconciliés avec Dieu, qui peuvent faire une différence et qui peuvent impacter le monde. On est les seuls. Et des fois, nous, on a tendance à oublier ça, et c'est important de se rappeler que Dieu compte toujours sur un homme. Et s'il n'y a pas d'homme, eh bien, il ne se passe rien. Si on prend donc le passage où Jonas intervient, je vais résumer un petit peu tout ce qui se passe. Mais en fait, du coup, il y a cette parole qui est dite à Jonas pour aller à Ninive. Donc Jonas, au début, on voit qu'il désobéit. C'est le verset 3. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive. Non, c'est pas celui-là. Donc c'est le début, là, c'est le 3. Bon, c'est pas grave. Donc si on reprend le premier verset, tout au début, on voit que Jonas désobéit. Et que Jonas, du coup, ne veut pas obéir à Dieu, ne veut pas aller à Ninive. Du coup, Jonas décide de partir. Bon, vous connaissez l'histoire. Il décide de partir loin de Ninive. Il décide d'aller à Tarsis. Donc Tarsis, c'est au sud de l'Espagne, donc vraiment à l'opposé de Ninive. Ninive, c'était plutôt sur l'est, et là il part à l'opposé, à l'ouest. Donc il part en bateau, et donc vous connaissez l'histoire. Et Dieu en fait fait souffler une tempête dans la mer pour que le bateau chavire. Donc les marins qui sont là, sont inquiets, ils pensent qu'ils vont tous mourir, et Jonas est en train de dormir. Donc là, il le réveille. Bon, Jonas leur confie qu'en fait, s'il y a la tempête, c'est à cause de lui, à cause de sa désobéissance. Et du coup, il décide de le jeter sur la corde de Jonas, de le jeter dans la mer. Et là, du coup, au lieu d'être noyé, au lieu de partir et de mourir, Jonas, en fait, est recueilli dans un gros poisson, donc une baleine. Bon, on ne sait pas si c'est une baleine, mais en tout cas, c'est un gros poisson. Là où il passe 3 jours et 3 nuits. Et c'est un temps, pour lui, un peu de repentance, un temps où il voit l'intervention de Dieu. Il voit Dieu agir dans sa vie. Et il voit que la vie n'est pas finie. Et du coup, il accepte finalement le plan de Dieu. Donc Dieu, une fois qu'il a travaillé son cœur pendant ces 3 jours et ces 3 nuits, Dieu le relâche du poisson. Et c'est là que, j'ai fait très vite, hein. Ce passage il est très précieux, il y a plein de choses à dire, mais je ne veux pas dire tout ce qu'il y a à dire. Et là on tombe du coup sur Jonas qui obéit, donc c'était au passage, au chapitre 3. Donc tu peux le remettre du coup. Voilà. Et là, donc, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Et là, Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Donc, on voit qu'au final, il s'est passé des choses parce que Ninive a obéi. Et on connaît la suite de l'histoire, on va continuer tout à l'heure. Mais tant que Jonas ne désobéit, tant que Jonas ne se met pas à obéir à ce que Dieu a prévu, il ne se passe rien. Et si c'était rien passé, on ne sait pas comment Dieu aurait fait, mais cette ville était en danger. Et donc, la première partie de mon message, en tout il y en aura 3, c'est de voir que donc Dieu utilise toujours un homme, Dieu a besoin d'un homme, et de dire que Dieu ne reviendra jamais sur cette parole. Et en fait, moi, je vais vous raconter aussi un peu mon témoignage durant cette prédication, parce que du coup, je suis aumônier en prison depuis 18 mois. Et en fait, ce qui m'a poussé à y aller, c'est un peu comme cette histoire de Jonas. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, quand j'ai compris que Dieu utilisait les hommes, quand j'ai compris que Dieu utilisait chacun d'entre nous, à la fois en église, à la fois dans les projets d'église, et à la fois individuellement, et à la fois en équipe, parce qu'on n'est jamais seul, hein, on ne fait jamais les choses seul, même si là, bon, Jonas était un prophète, c'est un peu différent. Et en fait, le fait de se dire, mais finalement, si Dieu compte sur moi, de se poser la question, mais comment Dieu veut m'utiliser ? Dans quoi veut Dieu veut-il m'utiliser ? Et finalement, si Dieu a prévu que c'est, il veut me donner autorité, du coup, il y a des choses merveilleuses qui peuvent s'accomplir, des choses grandes et glorieuses qui peuvent s'accomplir, juste si je réponds et si je me mets au service de Dieu, et juste si j'accepte d'obéir à la parole de Dieu. Pardon. Et du coup, on voit qu'au début, Jonas donc désobéit. Et c'est assez surprenant parce que Jonas, c'est un prophète. Des prophètes, dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas des milliers, vous savez. Et les prophètes, c'était quand même des gens qui étaient, qui étaient bénis, qui étaient un peu une sélection. C'était un peu l'élite, hein, on va dire. Parce qu'à l'époque, il y avait quelques hommes seulement qui pouvaient entendre la voix de Dieu, à qui Dieu pouvait parler. Et Dieu le faisait vraiment avec parcimonie, c'était vraiment que certaines personnes. Et on se dit, mais Jonas, comment il peut, alors que lui, il entend la voix de Dieu, alors que ses contemporains ne l'entendent pas, comment il peut juste désobéir et juste ne pas rentrer dans ce que Dieu lui dit? Et on se dit, c'est quand même assez fou, hein, c'est même insensé. Comment quelqu'un qui entend la voix de Dieu parmi tous ses contemporains, comment il peut dire non? Alors, je vais vous expliquer après les raisons, ce n'est pas le but du message, mais c'est quand même assez fou de se dire que même lui qui entendait la voix de Dieu peut désobéir. Donc nous, à plus forte raison, qui ne sommes pas des prophètes, même si on est tous aujourd'hui devenus prophètes, on peut se dire, à l'époque, quand même, il était élu, ce n'est pas comme aujourd'hui, on est tous élus. Donc on pourrait se dire, je peux imiter mon voisin, je peux imiter ce que je vois. Là, c'était vraiment, il était élu, c'était à cette époque-là, c'était le seul qui était touché par la parole de Dieu. Et de se dire, mais même lui qui était touché, il a pu désobéir. Donc ça nous rassure un peu de se dire que nous aussi, des fois, si on est rebelle, bon, du coup, on n'était pas le seul. Parce que quand même, il faut le faire, hein. Désobéir, on a parlé tout à l'heure du chef des armées, Dieu est le roi des armées. Désobéir au roi à celui qui est le roi de l'armée, à celui qui est tout puissant, c'est quand même incroyable. Et donc, Jonas démissionne. Jonas décide de quitter, de partir loin et de désobéir. Alors, bien sûr, Jonas avait des raisons. Alors, vous connaissez sûrement l'histoire. En fait, Ninive, ça appartenait au pays de la Syrie, des Assyriens, qui ont fait la guerre à Israël et qui ont été comme des envahisseurs. Du coup, Jonas, qui avait vécu ça, qui voyait, c'était vraiment comme un peu les envahisseurs, on peut dire, les Allemands pour nous Français durant la Seconde Guerre, ou dans tous les conflits, quand il y a un pays qui agresse un autre pays. Et du coup, Dieu lui demande d'aller dans le pays ennemi pour aller annoncer aux gens de se repentir pour que Dieu puisse leur faire la grâce de les sauver. Et ça, pour Jonas, c'était juste impossible. C'était juste impossible parce que ça dépassait sa façon de penser, ça dépassait tout, lui qui était meurtri par toutes ces choses et par d'autres raisons que je ne vais pas invoquer. Du coup, Jonas avait ses raisons pour désobéir. Et nous, souvent aussi, quand Dieu nous parle, et Dieu nous parle tout le temps, Dieu nous parle, dès qu'on ouvre la parole de Dieu, Dieu nous parle. Dès qu'on est là le dimanche, Dieu nous parle au travers des prédications. Dieu nous parle dès qu'on ouvre la parole, Dieu nous parle dès qu'on prie. Et finalement, on pourrait faire le constat que est-ce que je suis obéissant à toutes les paroles que j'entends? Est-ce que je suis obéissant à la parole de Dieu? Et moi, je fais le constat des fois de me dire, mais en fait, on est des personnes, on est remplis de plein de connaissances. Mais finalement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de tous ces versets? Qu'est-ce que je fais de toutes ces promesses? Qu'est-ce que je fais de toutes ces vérités? Et c'est vrai que dans mon parcours, et je vais continuer à vous témoigner de ça, je ne suis pas arrivé, je suis loin d'être obéissant à Dieu, mais j'ai juste capté quelque chose, j'ai juste capté que ces promesses que Dieu nous donne, ce qui a marqué dans la parole de Dieu, si on est sensible à ces choses, si on les prend et qu'on se dit, moi je suis quelqu'un comme tout le monde, mais juste je veux les vivre, mais juste je veux vivre des choses folles, je veux faire des exploits avec Dieu, c'est juste possible. Et en fait, nos vies, on ne peut pas se contenter juste d'avoir une vie en sous-régime, une vie où finalement il y a de la routine, une vie où finalement il ne se passe pas grand-chose, une vie où notre vie ne fait pas la différence, où finalement on n'est pas utilisé pour réconcilier le monde avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est juste pas possible. C'est juste compliqué de se dire qu'on est des fois infidèle, qu'on est des fois désobéissant. Et bien sûr que Dieu est patient avec nous. Et bon, le but de mon message, ce n'est pas d'accabler qui que ce soit. Mais c'est juste de faire prendre conscience, de se dire, on a chanté, on a loué le Seigneur ce soir. Et on est, y a un feu, vous savez, quand on est rempli de Dieu, il y a un feu. Et on sent qu'on est appelé un peu comme Jonas. Il devait avoir ce feu quand Dieu devait lui parler. À chaque fois que Dieu devait lui parler, il devait avoir un feu dans son cœur. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous utilise, il y a un feu qui est là. Il y a un feu qui vient, il y a un feu qui est là. Et souvent, ce feu, on l'a le dimanche, on l'a des fois dans notre temps d'adoration. Et pourtant, on pourrait se dire, mais finalement, ma vie, elle fait pas la différence comme elle devrait la faire. Elle impacte pas le monde comme elle devrait impacter. Et je crois qu'on est en route. Je crois qu'on a besoin encore de grandir, de révélation. Mais je crois qu'on a assez de révélation, on a assez de connaissances pour vivre autre chose que ce qu'on vit actuellement. Et je vous le dis vraiment dans l'amour, parce que je veux dire, on n'est pas arrivé, on est tous au même niveau, on est tous pareils. Mais ce désir qui est dans mon cœur, on ne peut pas juste se dire on vit ça le dimanche ou on vit ça de temps en temps, il faut que ce soit quelque chose de continuel. Il faut que ce soit quelque chose de continuel, se dire je veux obéir, je veux être utilisé par le Saint-Esprit à chaque instant, je veux être utile dans des petites choses, dans des grandes choses, je veux prendre des risques pour Dieu. Et du coup, on va lire ce verset dans 2 Corinthiens 5, 18 à 19, qui parle finalement du grand mandat que Dieu nous donne. Le fait d'aller, Jésus quand il est parti, avant de partir, de quitter la terre, il a dit à ses disciples, allez, faites des nations, faites de toutes les nations des disciples, et faites que toutes les nations soient réconciliées avec Christ. Et on est tellement habitué à entendre cette parole, on est tellement habitué à connaître finalement ce verset, à connaître le fait qu'on doit faire des disciples, on est tellement habitué que du coup ça ne nous fait plus rien, que du coup on le sait. Mais c'est comme si ça nous passait, c'est comme ça nous passait là, puis qu'on se dit bon, oui, je le sais, je le fais de temps en temps. Mais c'est comme si ça nous passait des fois dessus. Et dans ce verset, on va le lire. Alors j'ai pris plusieurs versions pour voir un petit peu vraiment la force des mots. Donc tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Et dans d'autres versions, il est dit, bon, c'est d'autres, il y a le verset 18 et 19, mais il y a le ministère de réconciliation et il y a le message de la réconciliation. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation, ou alors c'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargé de proclamer publiquement. Il nous a chargé d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Et franchement, on est tous des privilégiés ici, de pouvoir se dire, waouh, Dieu m'utilise à moi pour annoncer cette œuvre de rédemption au travers le monde, au travers des gens autour de moi. Et quand on est saisi par le monde, par les gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, et qu'on voit que Dieu nous charge de cette mission, mais c'est une mission qui est 24 sur 24, c'est une mission qui devrait nous obséder, c'est une mission qui doit nous faire vivre le matin en se levant en se disant, mais comment je peux faire pour réconcilier quelqu'un? Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais comment je peux faire pour que je puisse être utile pour la réconciliation? Et donc nous avons cette responsabilité. Et à la fois, nous sommes déjà passés par là, du coup, nous connaissons. Et moi, ce qui m'a motivé aussi, le fait d'aller en prison, c'est le fait de me dire, je sais, en prison, c'est compliqué. En prison, tout est compliqué. En prison, en fait, c'est des vies, c'est des bouts de vie. Les gens, quand ils arrivent en prison, ils ont l'impression que leur vie, elle s'arrête. Ils ont l'impression qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils ont l'impression qu'ils sont là, ils ne savent pas pour combien de temps ils vont être là. Et ils ont l'impression que leur seul but dans la vie, c'est juste de survivre, c'est juste d'attendre que les jours passent. Et c'est vrai qu'il y a peu d'espoir pour eux, dans le sens ils sont pas encouragés d'être en prison, et ils ont l'impression que leur vie s'arrête, que leur vie qui descendent très bas dans l'abîme. Et en fait, c'est vrai que c'est normal de penser ça. C'est normal qu'ils puissent penser à ces choses. Mais moi qui suis à mon niveau, qui suis passé par des moments difficiles, par des moments de vallée, par des moments difficiles, par des moments où finalement la vie nous fait pas de cadeaux. Et de voir comment Dieu a permis que je puisse sortir de là et que je puisse être réconcilié avec lui, que grâce à tous ces moments difficiles, j'ai pu le rencontrer. Je connais mon Dieu, je sais que mon Dieu, il est capable de faire ça pour ma vie, pour ta vie, il l'a fait pour la majorité des gens ici. Et pourtant, on pourrait se dire, mais pour les prisonniers, par exemple, ça va être difficile. Pour les détenus, ça va être difficile. Et pourtant, pour eux, c'est la même chose. Et moi, en fait, le fait d'être là, je sais que mon Dieu, il a cette espérance, et que cette espérance, on peut la partager. On peut la partager dans les endroits les plus difficiles, on peut la partager dans les endroits les plus fermés, dans les endroits où c'est compliqué. Parce que là où l'Esprit de Dieu habite, là où Dieu habite, on peut. Il y a la place pour plusieurs, il y a la place pour plein de personnes, il y a la place pour que ça se révèle sur plein de personnes. Alors j'aimerais te poser des questions ce soir. J'aimerais juste te poser des questions par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Et ces questions, on va peut-être s'arrêter un petit moment dessus. Parce que le but, c'est de pouvoir aussi faire un bilan, de pouvoir aussi poser les questions, de se dire, moi, j'en suis où par rapport à ça? J'en suis où par rapport au fait que Dieu m'appelle à être celui qui va réconcilier les gens avec Dieu? Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est le fait de comment Dieu t'utilise? Comment es-tu utile à Dieu? Alors, ça va être juste un temps où vous pouvez réfléchir juste à ça. De quelle façon, comment le Seigneur t'utilise? Quelle est ta stratégie? Quelle est la stratégie que Dieu t'a donnée pour pouvoir impacter le monde? Quelle est ta stratégie pour pouvoir impacter une personne? Quelle est ta stratégie pour pouvoir être un libérateur pour une cause, pour un domaine, pour une personne? Et te dire, est-ce que ta vie permet la réconciliation des gens avec Dieu? Est-ce que grâce à toi, il y a des gens qui se tournent vers Dieu? Et c'est pareil, ces questions, ce n'est pas pour nous culpabiliser, ce n'est pas pour se dire, oh, je ne suis pas un bon chrétien. Mais c'est juste ces questions, c'est juste que c'est naturel pour un chrétien qui est né de nouveau, qui est rempli de Dieu, qui est rempli de la puissance de Dieu, de pouvoir impacter son monde. C'est normal de pouvoir que l'esprit qui vit en nous puisse impacter les gens autour de nous. Il y a la place pour d'autres, il y a la place pour une foule nombreuse autour de chacun d'entre nous. Dieu a mis assez d'espérance en nous pour qu'on ait aussi l'espérance pour les gens qui sont autour de nous, pour les causes qui sont autour de nous. Dans 2 Corinthiens 5, 20, il est dit encore, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez, dans ce passage, il y a marqué que c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez, notre cœur, ça devrait être ce passage, se dire, mais presque quand on est face à des gens, alors bien sûr, c'est une image, hein, mais de dire à des gens, mais vas-y, réconcilie-toi avec Dieu, Dieu existe, réconcilie-toi. Ta vie, elle va durer encore quelques années, c'est pas comme les 40 jours dans la ville de Ninive où il y avait une condamnation. Mais de dire presque, bien sûr, on ne peut pas le dire avec ces mots-là, mais dans notre esprit, dans notre cœur, ça doit jaillir pour se dire, mais il faut que tu connaisses le nom qui sauve, il faut que tu connaisses le nom de Jésus, celui qui sauve et celui qui peut te réconcilier. Et il y a un cri, il y a comme une supplication dans ce verset, et de se dire, mais je ne peux pas juste être indifférent, et il faut que Dieu est grand, et Dieu va m'utiliser pour sauver les gens autour de moi, pour sauver ma famille, pour sauver des collègues, pour sauver des gens autour de moi, je veux même me mettre dans des endroits où Dieu va pouvoir sauver des gens qui sont en difficulté, des gens qui ont soif d'espoir, qui manquent d'espoir. Et c'est tellement important, c'est vital de nous poser ces questions. Et on va y venir tout à l'heure, mais quand Jonas a obéi, le fruit, il a été extraordinaire. Et pourtant, Jonas, il n'a pas fait grand-chose. Il a juste obéi. Et en fait, des fois, quand on prend des passages comme ça, on se dit, mais Jonas, c'était un prophète. On idéalise un petit peu les hommes de Dieu dans la parole de Dieu, mais Jonas, c'est nous. Jonas, c'est juste un homme que Dieu a choisi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a tous choisis depuis qu'on est dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus un prophète pour une nation. Il n'y a plus un roi pour une nation. Aujourd'hui, on est tous loin, on est tous remplis de l'Esprit de Dieu. On est tous remplis de la présence de Dieu. On a tous la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Du coup, on est tous des Jonas. Et ce que Jonas a fait, il ne faut pas croire que c'est juste réservé à une élite, que c'est juste réservé à des hommes ou à des femmes qui avaient des pouvoirs spécifiques. Et là, je vais continuer donc sur mon témoignage par rapport à la prison. Et en fait, juste vous partager quelques points en fait que j'ai réalisés depuis que je suis en prison. En fait, quand je suis allé en prison au début, Dieu m'oppressait dans mes tripes de me dire, mais pas forcément pour la prison, mais m'oppressait pour me dire, mais ce monde, il se meurt. Les gens autour de moi, ils se meurent. Et finalement, j'avais l'impression d'être tellement indifférent à toutes ces choses. Je ne l'étais pas, mais j'avais l'impression tellement au fond de moi qu'il ne se passait pas grand-chose. J'avais tellement l'impression que finalement, la vie passait. Puis finalement, les questions que je vous ai posées, ces questions, je me les posais. Je me disais, mais je n'ai pas de réponse. Et en fait, ces questions, je les ai méditées, j'ai prié dessus, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, j'ai besoin que tu utilises ma vie, j'ai besoin que je sois utile, j'ai besoin que je sois utile à quelque chose, je sois utile à vraiment ce que tu as prévu pour moi. Et on verra après, il y a le verset qui dit que Dieu a préparé les œuvres d'avance pour nous. Et du coup, ça vibrait dans mon cœur, et je dis, mais Seigneur, utilise-moi, mais je ne sais pas comment. Et des fois, on pourrait, alors là, je vous parle, l'aumônerie de prison, ça peut être un gros truc. On pourrait se dire, on n'est pas tous appelés à être aumônier de prison. Et le but, c'est pas d'être aumônier de prison, et c'est pas mieux d'être aumônier de prison que d'être dans son travail et finalement de faire le même travail dans son travail, ou de faire le même travail dans une association, ou de faire le même travail dans sa famille, ou de faire le même travail n'importe où. C'est pas le fait d'aller dans des endroits extraordinaires. C'est pas ça le but. Mais c'était juste de se dire, mais Seigneur, utilise-moi. Et en fait, le fait que je sois en prison, c'était juste pour être dans un endroit où je savais qu'il y avait des besoins, où je savais qu'il y avait c'était ténébreux, où je savais que c'était sombre, où je savais que la vie n'existait pas beaucoup. Et je savais que le fait d'y aller, quand j'y suis allé en prison, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'y vais. Mais si j'y vais, Seigneur, tu m'accompagnes, parce que moi, je peux rien faire en prison. Moi, je vais y aller. Qu'est-ce que je vais apporter? Je vais rien apporter. Mais quand j'y suis allé, j'ai fait ce pas de foi de dire, Seigneur, j'y vais, et je sais que tu m'accompagnes. Alors, je le savais là, qui m'accompagnait, en théorie, parce que je connais la parole de Dieu. Mais je me disais, mais Dieu, si je ne suis pas, il ne va rien se passer, ça va être terrible, j'aurais juste perdu mon temps, et juste ce qui brûle dans mon cœur, ben, il va rien se passer, ça va être juste du temps de perdu. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose. Et en fait, c'est tout petit, hein, ça fait que 18 mois, ce que je vous dis, ce n'est pas des choses extraordinaires, mais juste il s'est passé quelque chose. C'est que quand je me suis mis en position de faiblesse, et c'est peut-être la première fois de ma vie où je me mets dans une position de faiblesse, où je me suis dit, mais je ne peux rien faire de moi-même, je ne peux rien faire. Quand vous avez un détenu que vous rencontrez, vous parlez un petit peu avec lui, puis au moment de la discussion, il vous dit, ben moi j'en ai pris pour 16 ans. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'aider? Vous allez, oh ça va, t'inquiète, ça va aller. Vous pouvez rien dire. Vous êtes juste bouche bée en disant, mais purée, j'aimerais pas être à ta place. Non, mais c'est vrai, j'aimerais pas être à ta place, parce que moi, si j'étais à ta place, ça serait dur. Bon, nous, on connaît le Seigneur, donc c'est différent, mais même avec le Seigneur, c'est dur. Même c'est long quand même. Mais qu'est-ce que je peux faire face à lui? Et en fait, c'est pour des moments comme ça que j'aime être en prison. Parce que quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de possibilités humainement pour rien faire. Mais moi, je sais une chose. Je sais que ce que Dieu, le Saint-Esprit, ce qu'il a fait dans ma vie quand j'étais dans la dépression, quand j'étais au fond du trou, quand il m'a réconcilié avec lui, je sais que Dieu peut le faire dans la vie de n'importe qui. Dans la vie de n'importe qui peut le faire. Et pourquoi Dieu veut le faire dans la vie de n'importe qui? Juste parce que je suis à côté de la personne. Juste parce que je suis avec lui. Juste parce que je suis à ses côtés. Alors il va se passer quelque chose dans sa vie. Et c'est ça la révélation que j'ai eue, c'est que de me dire, je vais être dans cet endroit, c'est pas que j'ai des pouvoirs magiques, mais je sais que Dieu est en moi. Et que là où je suis, c'est Dieu qui est là. Et que là où je suis, Dieu est dans la prison, il était déjà avant moi. Mais là où je suis, comme pour Jonas, Dieu est là, et il se passe des choses. Et quand je parle avec des détenus, quand je commence, alors au début on parle pas forcément de Dieu, parce qu'il y en a certains, ils ont pas forcément envie d'entendre parler de Dieu. Mais quand je leur parle de mon témoignage, ils sont obligés de m'écouter, parce que moi je les ai écoutés pendant des heures et des heures, qu'ils m'ont raconté leur vie. Alors quand des fois je prends un petit moment pour raconter mon témoignage, en plus ils sont intéressés, ils veulent savoir pourquoi je suis en prison, c'est quoi un aumônier, pourquoi je vais pas plutôt aller à la plage plutôt que de venir en prison. Donc ils se posent des questions, ils sont quand même interpellés. Du coup je leur place mon témoignage. Et là je leur parle de Jésus. Et là je leur dis ce que Jésus a fait dans ma vie. Puis on commence à prendre des versets. Puis je commence à leur lire des versets. Puis je leur dis certains versets, alors je ne le dis pas comme ça, mais en gros, le verset que j'aime beaucoup, c'est « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Alors ce verset, je ne le dis pas comme ça. Mais en gros, je reprends un exemple avec des passages classiques de la parole de Dieu, des passages où en fait Jésus, il est avec la prostituée, ou le passage où Jésus, il est avec la femme adultère. Alors bien sûr, je ne le dis pas, je n'arrive pas directement en disant ça, sinon le gars, il sait que je parle pour lui, mais je le fais avec subtilité. Mais on le fait en groupe de parole, sinon c'est compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand les gens entendent que Jésus, il aime la prostituée, quand ils entendent que Jésus, il aime prendre soin de ceux qui ont beaucoup péché, de ceux qui ont une mauvaise vie, de ceux qui sont rejetés par la foule, et qui se disent, mais du coup, Jésus, c'est pas le Jésus, c'est pas le Dieu que je connaissais, et qu'ils voient que dans ma vie, ça a été transformé, que si je suis aujourd'hui avec eux en prison, c'est parce que j'ai été transformé, et ça, pour eux, ça commence à avoir du sens. Et quand je vois leurs yeux, des fois, c'est juste un sourire, où je vois leurs yeux s'ouvrir, et qu'ils reçoivent, vous savez, quand ils reçoivent pour la première fois de leur vie un passage qui les illumine, qui les éclaire, ben voilà, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui permet cette réconciliation, c'est Dieu qui permet qu'il y a quelque chose qui vient, et il y a l'espoir qui revient. Et ça, c'est juste extraordinaire, parce qu'on a tout, on a tout, on a la parole de Dieu. On a la tête bien remplie, on est rempli de messages, on a des choses extraordinaires. Moi, je vais vous dire un truc. Quand j'étais avant d'être en prison, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, voilà. J'étais, peut-être comme certains d'entre vous, j'étais là. Et quand il y avait des messages comme ça, je trépignais, je me disais, mais Seigneur, utilise-moi, mais voilà. Mais comment? C'était compliqué. Et vous savez, j'étais comme un peu l'image, vous savez, du coureur du 100 mètres. Vous savez, quand on démarre au 100 mètres, on est sur les starting blocks comme ça là, puis on attend le coup de pistolet, et dès que le coup de pistolet il retentit, hop, ils se lèvent et ils accélèrent à fond pour franchir la ligne en premier. Et ben moi j'étais comme ça. Et en fait j'attendais le coup de feu. Et j'attendais. Et c'était long. Et j'attendais. Et c'était pas juste une minute, c'était pas juste deux minutes, c'était des mois, des années. Et sur le coup, je réalisais pas ça. Ça, j'ai réalisé depuis que je suis en prison. Pourquoi ? Parce que j'attendais, je ne sais pas, mais j'attendais. J'attendais peut-être que Dieu fasse un miracle, que Dieu fasse quelque chose, j'attendais quelque chose. Et puis, il se passait des choses, mais j'étais toujours un peu dans mon starting block. Le jour où je suis arrivé en prison, en fait, il y avait tellement de besoins, il y avait tellement de choses à faire, que au début, j'arrive, et puis en prison, c'est compliqué. Quelqu'un qui est malade en prison, pour qu'ils soient soignés, c'est très compliqué. Et souvent, les gens, ils sont délaissés. Il y a l'administration, elle est vraiment... bref. Et du coup, j'ai commencé à prier pour des gens. Et j'ai commencé à prier pour des personnes qui étaient malades. Et en le faisant, je me disais, mais cette personne-là, si Dieu n'intervient pas, il ne sera jamais guéri, il va être mal soigné ou ça va être compliqué. Et il s'est passé des choses, et les gens ont été guéris. Quand j'étais là, dès que je disais une petite parole d'un verset, les gens, ils étaient comme ça. Et j'avais l'impression, du coup, que tout ce que j'avais appris pendant toutes ces années à l'église, que j'étais, vous savez, comme un docteur généraliste, en fait. Il connaît tout sur toutes les maladies, vous savez. Et moi, j'arrivais là, au début, j'étais juste normal, quoi. Et là, j'arrivais et j'avais l'impression que, du coup, je pouvais semer dans tout ce que je pouvais semer. Il y avait toujours, ça prenait toujours, il y avait toujours quelque chose qui prenait. Et là, j'ai compris tout ce que Dieu a mis dans nos vies. En fait, on est juste des personnes... qui sommes tellement remplis de Dieu, on a tellement une connaissance de Dieu, on a tellement une foi en Dieu, qu'on est comme, vous savez, des fois dans les starting blocks, et on ne sait pas où utiliser, quoi faire, mais quand il y a des besoins, quand ça court de partout, quand ça grouille de partout, quand finalement il n'y a rien, et dès qu'on plante un petit truc, ça pousse, c'est juste extraordinaire de se dire, waouh, mais Dieu a de la réserve. Mais en fait, et depuis que j'y suis, j'ai l'impression du coup de revivre, de renaître, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris, il n'y a rien qui est inutile, rien. Même les choses où je ne suis pas très très fort, bah, quand je suis avec eux, bah, j'ai l'impression que je suis, pour eux, je suis Moïse, quoi. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, c'est pas parce que c'est moi qui suis. C'est juste parce que je me rends disponible et parce que je sais que je ne peux rien, mais que celui qui est en moi, il peut tout. Et du coup, je vais vous dire aussi ce que ça a produit. Ça a produit que j'ai jamais autant parlé de Jésus depuis que je suis en prison. C'est normal. Mais du coup, quand on parle de Jésus, vous savez ce qui se passe quand on parle de Jésus ? Il y a la gloire, il y a le Saint-Esprit qui vient, et on a la chair de poule, et on sent qu'on est, et on ressort de là, et c'est nous qui sommes touchés, c'est même pas l'autre aussi. Et du coup, on se dit, waouh, mais c'est bon, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Parce qu'avant, j'étais pas dans un environnement où j'étais pas programmé pour me dire, mais en fait, j'ai des choses extraordinaires que Dieu a mis en moi. Et du coup, quand j'ai commencé à me dire, mais tout est possible, il y a des besoins énormes, qu'est-ce que je fais ? Ben, on va prier. Et du coup, quand on prie, ben, ça marche. Et en fait, l'évangile, ça marche. Et en fait, les paroles de Dieu, ça marche. Et les promesses de Dieu, ça marche. Et en fait, c'est juste incroyable de se dire, en fait, on ne se rend pas compte, on est en sous-régime. Juste parce que il nous manque, comme moi, je suis resté des années, à me dire, mais il faut que tu m'utilises, Seigneur, il faut que tu m'envoies. Alors, ça a pris du temps pour que je me décide et pour que Dieu me parle. Et j'ai envie de dire, Dieu ne m'a pas forcément parlé que sur la prison. Mais les portes sont ouvertes sur la prison. Et du coup, j'ai commencé là, mais je sais que ça pourrait être ailleurs. Et en fait, ce que je voudrais vous encourager ce soir, c'est juste de se dire, en fait, Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Alors, ça paraît joli, c'est un joli verset. Ça paraît assez beau sur le papier. Mais en fait, ce n'est pas des mots, c'est la vérité. C'est la vérité, en fait, tu es la personne que Dieu va utiliser pour réconcilier plein de gens avec Dieu. Et ça va être glorieux, parce que ce que tu as en toi, tu as Dieu en toi, tu as la personne du Saint-Esprit qui habite en toi. Et du coup, c'est glorieux, parce qu'avec ça, avec le fait que Jésus a tout accompli, et que nous, on est bénéficiaires de ce que Jésus a accompli, tout est possible. Tout est possible, mais juste, il y a une chose qu'il faut faire. Une chose. C'est juste prendre des risques. C'est juste se mettre dans une situation où je contrôle rien. Se mettre dans une situation où je peux rien faire. Mais je peux rien faire. En fait, je crois que je peux rien faire. Enfin, je peux rien faire. Mais celui qui est en moi, il peut faire. Et depuis, je vous promets que depuis, ma vie, elle a changé. Depuis, ma foi, elle n'est plus juste là à dire « Ah, est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi ?» Ma foi, mais je la provoque. Je me dis « Seigneur, tu as dit ça, mais je m'attends à ça. » Parce que tu l'as dit et parce que Dieu le fait. Et je vous invite juste à prendre des risques. Ce soir, je voudrais juste vous inviter à prendre des risques. Attendez pas comme moi, j'ai attendu des années pour... Bon, je faisais des choses avant, hein, c'était bien. Mais c'était des choses que je faisais, vous savez, où je contrôlais, où je pouvais le faire, qui est Dieu ou qui n'est pas Dieu, je pouvais le faire. Et c'est bête, hein, je vous dis ça avec le recul, hein, si à l'époque je l'avais su, je n'aurais pas fait comme ça. Mais à l'époque, je faisais des choses, en fait, dans ma vie, c'était sécure. Tout ce que je faisais, j'étais capable de le faire. Bien sûr, je priais, bien sûr, je voulais le faire avec Dieu. Mais en fait, comme je pouvais le faire sans Dieu, bah du coup c'était souvent sans Dieu ou des fois de temps en temps avec Dieu. Bon, bref, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux vivre des choses incroyables, Jonas, ce qu'il a vécu, c'est juste incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Qu'est-ce qu'il a fait, sérieusement? Il a fait quoi? Bon, il a obéi, déjà c'est bien, ok. Donc l'obéissance c'est important, mais il a fait quoi? Il a juste marché une journée, bon c'est pas mal, il a marché une journée dans la ville de Ninive, et il aura juste dit, eh les gars, dans 40 jours, pour vous c'est fini. Dieu est en colère contre vous, dans 40 jours c'est fini. Il a juste fait ça. Et Dieu lui avait dit en plus de le dire, hein, c'est pas lui qui a, il a pas fait un message, il a pas fait une prédication, il a pas dit, il s'est pas mis au milieu de la foule en disant, hey, venez les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Il a pas transpiré, il a pas préparé un message, il a pas fait des pubs, une campagne de pub dans toute la ville de Ninive pour dire aux gens, repentez-vous, parce que Dieu va venir et va. Non, il a pas fait ça, il a pas non plus projeté, loué tous les cinémas de la ville pour essayer de créer un film pour que les gens voient ça. Non, il a juste dit ce que Dieu lui a dit de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rien fait. C'est-à-dire, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous qui fait ça. Et juste, il a fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on n'aura peut-être pas le temps de le lire, c'est pas grave. De toute façon, j'arrive jamais à dire tout ce que j'avais prévu de dire. Mais ce qui s'est passé, c'est que la ville qui était la moitié de Montpellier, qui comptait environ 120 000 personnes, la ville, en fait, elle s'est repentie. Du plus petit au plus grand jusqu'au roi, la ville s'est repentie. Et ils ont tous, on n'avait pas marqué si c'est tous, mais il y a marqué que du plus petit jusqu'au roi, ils sont tous. Ils étaient, en effet, ils étaient dans l'idolâtrie, ils étaient dans la méchanceté, ils ne connaissaient pas Dieu. Et ils ont fait un changement de cap tellement fort que du coup, Dieu a été touché par ça. Et Dieu n'a pas détruit cette ville parce que Dieu, son cœur, quand il a voulu les avertir, c'était pour les sauver. Et qui peut dire, quel homme peut dire, ben moi, j'ai fait une campagne d'évangélisation et en une heure, en une journée, j'ai sauvé 120 000 personnes. Pas mal quand même. Hein, sur ton CV, tu mets, durant une journée d'évangélisation, j'ai sauvé 100 000 personnes. C'est pas mal, mais c'est pas lui qui l'a fait. Il a rien fait, il a juste obéi. Alors pour lui, ça lui coûtait. Hein. Pour lui, d'aller dans cette ville ennemie, dans cette ville où en fait, c'était une ville qui avait voilà, des gens qui avaient peut-être fait du mal à sa famille, à son pays, c'était dur pour lui, mais il a obéi. Et il a pris un risque. Il a pris le risque de pouvoir dire, Seigneur, ok, j'y vais. Et je dis ce que tu veux que je dise, et je fais ce que tu veux que je fasse. Et juste, je voudrais, on va finir peut-être comme ça, je voudrais juste vous inviter tous, quand je vous posais ces questions-là, tout à l'heure, comment Dieu peut t'utiliser, c'est juste de vous dire, c'est simple en fait. Parce que Dieu a déjà tout préparé à l'avance. Dieu, il a déjà préparé toutes les œuvres à l'avance. Et en fait, Dieu, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir prendre la place du roi. On a parlé tout à l'heure, on a loué, en disant, Seigneur, prends la place du roi. Qui est sur le trône dans nos vies? Qui dirige nos vies? Est-ce que c'est nous qui dirigeons nos vies ou est-ce que c'est Dieu qui dirige nos vies? Et souvent, bah, c'est Dieu, c'est nous qui dirigeons nos propres vies. Et moi, je suis qu'au début. Hein, je veux dire, ce qui se passe pour moi, parce qu'en fait, la personne qui est la plus touchée en prison, c'est moi actuellement, même s'il se passe des choses. Mais la personne que Dieu a le plus touché durant tous ces mois où j'étais en prison, c'est moi parce que je ne suis plus le même. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir une vie où je fais des choses que je contrôle. J'ai envie de voir l'évangile, j'ai envie de voir la puissance de Dieu agir à travers ma vie. Et pas parce que je suis meilleur que quiconque, juste parce que c'est les promesses que Dieu nous a données. Et aujourd'hui, je prends des risques. Je prends de plus en plus de risques. Je prends des risques, des fois, ça, les gens qui me verraient ne me reconnaîtraient pas. Et en fait, j'aime ça parce que je vois Dieu à l'œuvre. Et n'hésitez pas à prendre des risques. L'autre jour, par exemple, ça ne me serait jamais arrivé avant. L'autre jour, j'étais à la gare de Lyon et mon train avait une heure de retard. Du coup, moi j'étais déjà en avance, donc j'avais une demi-heure d'avance, et là une heure et demie. Et là je me retrouve dans cette gare, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire pendant une heure et demie, parce que j'avais rien de prévu à faire. Et je me suis dit, bon. Et là, comme je suis dans une phase où je veux prendre des risques, je me dis, Seigneur, tu veux sûrement parler à des gens, donc dis-moi à qui tu veux parler. Et j'ai commencé à me mettre dans un coin, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi des visages, et je veux aller parler de Jésus, ou je veux juste une parole pour quelqu'un, je veux lui dire. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais j'ai fait ça de ma vie. Je suis jamais allé voir quelqu'un dans la rue en lui disant, et en fait, j'apprends aussi depuis cette année, j'apprends à écouter le Saint-Esprit. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais je veux dire, c'est, écouter le Saint-Esprit, c'est tellement simple. Avant, vous savez, quand je priais, je disais, Seigneur, parle-moi. Par exemple, quand j'ai préparé cette prière, je dis, Seigneur, parle-moi. Et en fait, avant, quand je recevais des paroles, des pensées, je me disais, ah non, c'est pas de Dieu, non, j'attendais vraiment, ou j'attendais quelque chose, je sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais vraiment quelque chose de clair, vous savez, quelque chose d'évident, ou une pensée, vous savez. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il marche. Dieu, il marche pas comme ça. Dieu, il est simple. Dieu, tu lui demandes juste, Seigneur, donne-moi une pensée pour un tel, ou donne-moi une pensée pour le message, ou... et bien Dieu le fait, parce qu'il a qu'une envie, c'est de communiquer avec nous, c'est de nous parler, et c'est de faire sa volonté à travers de nous. Et du coup, j'ai reçu des visages. Bon, l'histoire, elle n'est pas glorieuse à la fin. Parce qu'en fait, j'ai reçu des visages et j'ai tourné pendant une heure dans la gare pour essayer de trouver les gens que j'avais vus. Pourtant, j'avais vu des vrais visages et avec des vrais t-shirts et j'ai pas trouvé les gens que j'avais vus. Mais c'est pas grave, j'apprends, hein, je suis en train d'apprendre. Mais je vous promets que si j'avais vu les visages que j'ai vus, peut-être que je les ai vus mais je n'ai pas capté, hein, ben, j'y serais allé. Et après, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, je me suis dit, je vais prendre une autre stratégie. Je vais juste attendre de voir quelqu'un qui ne bouge pas et je vais aller vers lui. Et du coup, je suis resté et puis je disais, Seigneur, parle-moi pour lui. Puis j'écoutais et puis j'essayais de voir. Et puis souvent, bah, le gars, il partait. Avant que j'ai eu le temps de partir, il partait prendre son train. Résultat, j'ai fait chou blanc, j'ai parlé à personne. Il y a juste un mec qui m'a trouvé un peu louche parce qu'il m'a vu tourner 10 fois autour de lui. Et il disait, qu'est-ce qu'il me veut, ce gars-là? Il passe devant. Après, j'essaie de me cacher pour essayer de le voir, pour voir s'il ressemblait pas au gars que j'avais vu dans ma tête. Et je dis, mais c'est lui, mais il ressemble pas trop, mais il est mal rasé, comme j'avais vu. Et c'était l'échec. Mais je sais que c'est pas grave, parce que je sais que j'apprends. J'apprends. Et c'est facile, parce que c'est facile. Et en fait, j'ai quand même reçu des visages clairs. Alors peut-être que je les verrai un jour, mais j'ai reçu des visages clairs. Et ça, vous m'auriez dit ça il y a un an, j'aurais jamais reçu 3 visages. Enfin, pour moi, ça paraissait incroyable. Ça paraissait juste impossible. Voilà, bon, du coup, je sais plus quelle heure il est, mais juste... Du coup, je suis pas du tout dit ce que j'avais prévu de dire, mais c'est pas grave. Bon, juste pour finir, on va juste peut-être se lever tous. Et juste, s'il y a une chose que je voudrais vous retenir ce soir, c'est juste qu'avec Dieu, c'est pas difficile. Mais juste, il faut se mettre dans les situations où Dieu peut agir. Et en fait, votre motivation, c'est pas juste le faire pour le faire, c'est pas juste le faire pour le fun. Si ça vient pas d'un amour pour Dieu, si ça vient pas d'un cœur rempli pour dire, mais Seigneur, je veux que les gens soient sauvés, je veux que telle personne te connaisse, Seigneur, c'est viscéral, c'est quelque chose, Seigneur, que je veux et que je désire et je veux, Seigneur, que tu me donnes ton amour pour les gens. Et je veux que tu me donnes ton amour comme ton amour, Seigneur, pour les personnes que tu veux sauver. Et Seigneur, je prie vraiment, comme Jonas, Seigneur, que tu puisses changer nos cœurs pour que, même si Jonas, il l'a fait à contre-cœur, il l'a quand même fait, et que nous, on puisse le faire, mais saisi par un amour, saisi par l'amour que Dieu met dans nos cœurs. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, dans ce temps, que tu parles à chacun d'entre nous et que tu nous fasses sortir de notre petite boîte où on a pu se mettre, de notre petite vie tranquille, de notre petite vie peut-être de routine. Seigneur, où tu es présent, mais où, Seigneur, on ne te laisse pas la place sur le trône. Et je te prie, Seigneur, que toutes nos vies, quand on se voit le dimanche, quand on se voit en semaine entre chrétiens, je te prie, Seigneur, que ce soit juste des témoignages des miracles, des prodiges, de tout ce que tu as accompli dans nos vies à travers toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes nous parler. Je te prie, Saint-Esprit, que tu nous fasses l'honneur de mieux connaître, qu'on puisse connaître le son de ta voix, Saint-Esprit, qu'on puisse apprendre à connaître qui tu es encore plus, qu'on recherche ta présence encore plus, Saint-Esprit. Je te prie, Saint-Esprit, qu'on puisse, Seigneur, entendre le son de ta voix, te parler, te demander, te questionner, te demander des choses, qu'on puisse comprendre, Seigneur, tes promesses, qu'on puisse, Seigneur, savoir comment les accomplir, qu'on puisse, Seigneur, être à la place où tu veux qu'on soit. Je te prie, Seigneur, qu'on se mette dans des endroits où, Seigneur, il y a besoin qu'il y ait des chrétiens. Les endroits de souffrance, des endroits difficiles, ou même partout, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour trouver des endroits où il y a de la souffrance. Et la souffrance, elle est à la porte, juste à côté. Pas besoin d'aller dans des endroits stratégiques, mais il y a aussi besoin d'aller dans des endroits stratégiques. Et Seigneur, tu connais ce que tu as mis en nous, tu connais les projets que tu as placés en nous. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous fasses, Seigneur, cette grâce de pouvoir vivre l'Évangile de façon folle, de façon surnaturelle, de façon à la fois surnaturelle pour toi, mais tellement naturelle pour toi, Seigneur. Seigneur, on sait qu'on n'est pas là où on devrait être. On sait qu'il y a quelque chose qui doit basculer, qui doit shifter, Seigneur, dans notre vie. Et Seigneur, je prie, Seigneur, qu'on ne reste pas bloqué dans les starting blocks. Je prie, Seigneur, que Seigneur, tu révèles, Seigneur, qu'il y a plus que ça. Tu nous révèles qu'il y a plus que ça. Seigneur, merci parce que, Seigneur, quand on rentre dans ce chemin, Seigneur, on a envie de plus de toi. Seigneur, on a envie de plus de toi parce qu'on sait qu'il y a plus. Seigneur, on a envie de plus d'utiliser les dons que tu nous as donnés. On a envie de plus avoir les dons spirituels, Seigneur, que tu nous donnes. On a envie, Seigneur, d'avoir les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de connaissance, les dons de pouvoir être utilisés, Seigneur, pour tous ceux qui se perdent. Seigneur, merci parce que c'est vrai que connaître Jésus, c'est un mystère et c'est quelque chose de caché que tu as caché aux hommes. Mais Seigneur, par la puissance de Dieu, il y a n'y a rien qui est plus caché. Par la puissance de Dieu, Seigneur, tu viens révéler, Seigneur Christ, tu viens révéler Jésus, tu viens révéler celui qui change les vies, tu viens révéler celui qui transforme les destinées les plus noires en destinées glorieuses. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont réunis, et ceux qui sont pas réunis, ceux qui sont pas là. Et je prie, Seigneur, que Seigneur, on soit une église qui soit connue pour notre foi. On a prié, on a parlé de la foi dans la louange. On a loué, Seigneur, pour dire qu'on voulait cette foi. On a loué, Seigneur, et on a dit qu'on est ce peuple victorieux. On est un peuple victorieux parce que la victoire est déjà acquise. Et Seigneur, je prie que ces victoires, elles soient à la fois pour nos vies et à la fois pour les gens autour de nous. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont besoin de victoire dans leur propre vie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ces promesses de ta parole, Seigneur, on les prenne comme argent comptant. Seigneur, je prie qu'on les prenne et on dit, tu as dit ça dans ta parole et c'est vrai. Et du coup, on l'applique. Comme Seigneur, quand tu as fait le monde, Seigneur, ça a été par une parole. Tu as créé le monde par une parole. Tu as créé le monde parce qu'il y a une parole qui est sortie de ta bouche. Et alors il y a quelque chose qui a été construit. Et Seigneur, tu as, pareil pour Jonas, il y a quelque chose qui est sorti de sa bouche parce qu'il était à un endroit précis. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et alors, le peuple, la ville de Ninive a été restaurée, a été réconciliée, a été sauvée. Et Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu permets, Seigneur, qu'il se passe quelque chose dans nos vies, dans nos destinées, Seigneur. Tu permets, Seigneur, que là où on est, Seigneur, les paroles que tu as dites dans ta Bible, que, Seigneur, elles soient déversées dans nos bouches, Seigneur. Parce que c'est à travers nos bouches, Seigneur, que Seigneur, ces vérités deviennent réelles. Et merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais. Merci pour la soif. Merci pour la soif. Merci parce que, Seigneur, quand on voit tes miracles au jour le jour, on a encore plus soif de toi. Et je prie, Seigneur, pour qu'on vive une vie extraordinaire parce que ça nous donne encore plus soif de toi. Ça nous donne encore plus d'amour pour toi. Ça nous donne encore plus envie de chercher ton cœur, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour vraiment que on soit pas dans une vie, Seigneur, comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Mais on soit dans une vie où tu es à l'œuvre dans chacune de nos vies. Et je bénis, Seigneur, chacun ici ce soir pour que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse agir puissamment dans tous mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Merci, souffle de Dieu, tu agis maintenant dans chacun au nom de Jésus.